La vie chrétienne est un combat. Merci, Timothée, de nous le rappeler. L'importance du thème, l'importance des textes bibliques qui nous en parlent, et du contexte de ces textes bibliques. Vous avez comme verset du jour dans le chapitre 9, « Veillez et priez ». La nature humaine, l'esprit est bien disposé dans la nature humaine. En pensant à ce verset et au thème du combat, je confesse que j'avais beaucoup trop peu le contexte en tête et que je trouvais ce verset pas trop violent par rapport à Éphésiens 6, qu'on lira tout à l'heure aussi, qui nous parle des armes pour lutter dans ce combat. Mais en fait, Matthieu 26, 41, relu dans son contexte, ce que je vais faire avec vous maintenant, nous rappelle à quel point cette exhortation parle d'un combat extrêmement rude et de quelque chose de tellement douloureux. Matthieu 26, quelques heures avant sa mort, Jésus parle, verset 30. Matthieu 26, verset 30. Ils chantèrent les psaumes de la Pâque, ensuite ils sortirent pour se rendre au mont des Oliviers. Jésus leur dit alors, « Cette nuit, ce qui m'arrivera vous ébranlera tous dans votre foi. En effet, il est écrit, « Je frapperai le berger et les brebis du troupeau s'enfuiront de tous côtés. Néanmoins, quand je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre prit la parole et lui dit, « Même si tous les autres sont ébranlés à cause de ce qui t'arrivera, moi, je ne le serai pas. » Jésus reprit, « Vraiment, je te l'assure, cette nuit même, avant que le coq ait chanté, tu m'auras renié trois fois. » Pierre réaffirma, « Même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. Là-dessus, Jésus arriva avec eux en un lieu appelé Gethsémané. Il dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je vais prier là-bas. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Il commença à être envahi d'une profonde tristesse et l'angoisse le saisit. Alors il leur dit, « Je suis accablé de tristesse, à en mourir. Restez ici, veillez avec moi. » Puis il fit quelques pas, se laissa tomber la face contre terre et pria ainsi, « Ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe. Toutefois, que les choses se passent non pas comme moi je le veux, mais comme toi tu le veux. » Ensuite, il revint auprès des disciples et les trouva endormis. Il dit à Pierre, « Ainsi, vous n'avez pas été capable de veiller une seule heure avec moi ? Veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est bien faible. » Il s'éloigna une deuxième fois, se remit à prier en disant, « Ô mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe me soit épargnée, s'il faut que je la boive, alors que ta volonté soit faite. » Il revint encore vers les disciples et les trouva de nouveau endormis, car ils avaient tellement sommeil qu'ils n'arrivaient pas à garder les yeux ouverts. Il les laissa donc et s'éloigna de nouveau. Pour la troisième fois, il pria en répétant les mêmes paroles. Lorsqu'il revint auprès de ses disciples, il leur dit, « Vous dormez encore et vous vous reposez ? L'heure est venue où le Fils de l'homme va être livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous, allons-y. Celui qui me trahit est là. » Que Dieu bénisse sa parole, nous aide à la recevoir et à la méditer, nous parle par son esprit. Jésus annonce la tempête, son rejet, sa mort. Pierre affirme être prêt à tout, prêt au combat. Jésus lui annonce qu'il se trompe et qu'il ne va pas du tout tenir aussi bien debout qu'il le pense. Jésus est lui-même accablé de tristesse, en proie à l'angoisse, nous dit le texte. Et il prie à Gethsémané, « Père, éloigne de moi cette coupe, cette épreuve, épreuve tellement énorme, mais que ta volonté soit faite. » Et c'est dans ce contexte, je l'ai redécouvert ces jours-ci, je le savais, mais c'est redevenu plus clair dans ma tête, qu'il y a ce verset très bien connu, « Veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est bien faible. » On est loin d'un petit conseil au coin du feu. Jésus est à Gethsémané. Il a prié trois fois de façon très intense. Il a trouvé chaque fois au retour les disciples endormis. On est dans un contexte de lutte terrible et d'épreuves extrêmes, avec un conseil qu'il nous faut toujours plus entendre et vivre, veiller et prier. Je vous propose de méditer cela en trois points très simples dans les minutes qui suivent. La réalité du combat, la réalité des protections divines et l'équipement à notre disposition. La réalité du combat, on l'a chanté, on y a réfléchi à nouveau beaucoup déjà au début de ce culte. Nous préférerions souvent que la vie chrétienne soit telle une promenade dans une clairière ou un long fleuve tranquille ou un vol en planeur. Vous prenez l'image qui vous plaît le plus. Mais la réalité du combat est là. Certains parlent volontiers de combat spirituel. Dans nos milieux, on était souvent un peu mal à l'aise avec cette expression. Mais en fait, heureusement, on parle de lutte intérieure. Et si on parle de lutte intérieure liée à la marche par l'esprit, on parle de combat spirituel. L'expression « combat spirituel » n'est pas telle qu'elle dans le Nouveau Testament. Mais la réalité des luttes intérieures est clairement enseignée pour nous préparer à vivre cette vie chrétienne qui est faite d'un grand combat. Quelques textes bibliques maintenant, nous avons lu Matthieu 26, 41, « Se veiller et prier dans un contexte d'extrême douleur, de combat très douloureux de Jésus-Christ lui-même. » J'ajoute un ou deux autres versets maintenant. Galates 5, 16 et 17, l'apôtre Paul écrit aux Galates, et il leur dit cette parole qui oppose à nouveau, comme Jésus l'a fait dans ce texte de Matthieu 26, la fragilité de la nature humaine et les beaux élans de l'esprit de l'homme au bénéfice de l'Esprit de Dieu. Galates 5, 16, c'est pourquoi je dis, laissez l'Esprit Saint conduire votre vie. Ainsi, vous ne suivrez pas vos désirs mauvais. Ces désirs mauvais luttent contre l'Esprit Saint. L'Esprit Saint lutte contre ses désirs. Entre eux, c'est la guerre. Le résultat, c'est que vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez. L'apôtre Paul commente longuement cela dans un chapitre assez connu, Romains 7. Je fais le mal que je ne veux pas et je n'arrive pas à faire le bien que je veux faire. Bien sûr, pas toujours. C'est l'expression du combat. L'apôtre Paul a fait beaucoup de bien qu'il a voulu faire et il a repoussé beaucoup de mal qu'il ne voulait pas faire. Mais dans Romains 7, il exprime la tristesse, la douleur de ces passages dans la vie où ça ne se passe pas comme on voudrait. Dans le domaine des pensées, des comportements, des paroles, quand vous parlez de combat, quand vous pensez au combat, qu'est-ce qui vous vient que vous souhaitez dire à Dieu en lui demandant de vous aider? Les paroles, les pensées, les comportements, on est rarement au top. La lutte contre l'impureté, dans certains pays, peut-être bien plus mauvais que le nôtre, mauvais humour. Il semblerait qu'environ 60% de ceux qui vont à l'église et qui se disent clairement chrétiens reconnaissent avoir un gros problème avec la pornographie. Ce n'est pas 5%. Les pensées, la lutte contre l'impureté, les comportements, très difficile de mesurer l'énergie des pensées. Franchement, quelquefois, l'énergie gaspillée dans les conflits. 5%, 10%, non. Beaucoup plus, je pense. Satan doit bien se frotter les mains quelquefois. quand tant d'énergie est gaspillée là où nous devrions connaître des victoires. Les paroles, la violence, plus doux peut-être, mais terrible, nos négligences, la lecture de la parole de Dieu, la vie de prière. Et on revient à ce que Jésus dit, veillez et priez. Mes négligences sont probablement un de mes gros péchés. Ça ne paraît pas très violent d'oublier un peu Dieu. Ça ne paraît pas très catastrophique. Personne dit ici, je pense, me jetterait de pierre devant mes oublis de Dieu. Et pourtant, je ne vous demande pas de jeter des pierres. Mais je vous propose de reconnaître ensemble à quel point c'est un péché grave. Quelquefois, quand quelqu'un m'oublie, ça me blesse. Et j'oublie Dieu. Quel péché grave. Quel affront. Dieu dit à son peuple par la bouche de Michée, « Mais quel mal t'ai-je fait pour que tu ailles ailleurs ? Moi qui t'ai fait sortir d'Égypte, mais quel mal t'ai-je fait ?» Quand j'oublie Dieu, c'est tellement grave. L'apôtre Pierre nous dit, 1 Pierre 2,11, « Bien-aimés, je vous exhorte, en tant qu'étrangers et voyageurs, à vous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme. » Donc ce n'est pas un dada de l'apôtre Paul que de dénoncer ce qui en nous fait la guerre au bien, à la pureté, à ma relation avec Dieu. Je reviens à Paul, après ces combats qui évoquent les tensions intérieures dans la lutte contre le mal, il y a aussi tout le combat pour le bien des autres, pour nos frères et sœurs. Colossiens 2,1 par exemple. Mais il y a une foule de versets comme celui-ci dans les lettres de Paul aux églises. « Je tiens en effet à ce que vous sachiez combien rude est le combat que je livre pour vous et pour les frères qui sont à Laodicée, comme pour tous ceux qui ne m'ont jamais vu personnellement. » Ici, il ne s'agit plus du combat contre les mauvaises pensées, contre les paroles qui viennent trop vite, contre des comportements qui vont faire beaucoup de tort, mais du combat positif, constructif, pour le bien des autres. Et l'apôtre Paul parle souvent du combat très constant qu'il mène en pensant aux églises qu'il aime et aux frères et sœurs qu'il aime. Et cela doit aussi être une de nos expériences que de combattre pour le bien les uns des autres. Premier point, réalité du combat. Sommes-nous prêts à vraiment refaire ce constat de la vie chrétienne comme un combat rude? Et sommes-nous prêts à en tirer des leçons concrètes, quelquefois exigeantes, dans notre lutte contre le mal? Avant de réentendre quelques outils qui nous sont clairement enseignés par l'apôtre Paul, tout d'abord, un deuxième point, la réalité des protections divines. Un beau point. Que dit Jésus à Pierre dans ces heures très solennelles qui précèdent sa mort, avec l'annonce de ses souffrances et la faiblesse des disciples, quand il annonce à Pierre qu'il ne va pas être du tout aussi fort qu'il pense l'être? Quand Jésus annonce à Pierre qu'il sait d'avance que la faiblesse va l'atteindre, que dit Jésus? Sa déception? Non. Luc 22,32. « J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. » La deuxième chance est beaucoup d'autres. Beaucoup d'autres. Jésus ne nie pas à Pierre, « Non, non, tu étais beaucoup moins bon que tu penses. » Et d'ailleurs, je me demande pourquoi je vous ai choisi les 12. Jésus sait que le berger sera frappé et que les brebis seront dispersées. Il sait que Pierre et les autres ne vont pas du tout avoir la force qu'ils pensent, qu'ils prétendent avoir. Mais il ne les rejette pas du tout. Il ne les regarde pas du tout de loin ni de haut. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Quand tu seras revenu, affermis tes frères. Qu'est-ce qu'il y a au milieu de la phrase qui n'est pas écrite? tu vas tomber. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Quand tu seras revenu, de où ? De par terre. J'ai prié pour que tu ne tombes pas, mais j'ai déjà préparé ton retour. C'est pas beau ça ? Et j'ai une mission pour toi. Affermis tes frères. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Le même Dieu patient, rempli de compassion, de réalisme, dit dans l'évangile de Jean, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent, je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, personne ne les arrache de ma main. » Le bon berger ne dit pas, « Je connais mes brebis, je les ai bien choisies, c'est une bonne race, elles vont tenir. » C'est beaucoup plus rassurant que cela. Je connais mes brebis, elles connaissent ma voix. Personne ne les ravira de ma main. Dans le même évangile de Jean, chapitre 16, dans cette soirée où le Seigneur a beaucoup enseigné ses disciples quelques heures avant sa mort, deux versets extrêmement réalistes, avec une promesse très forte. Voici que l'heure vient, et même elle est venue, où vous serez dispersés, chacun de son côté. Vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Le réalisme et les promesses que l'on retrouve dans tout l'Évangile. Jamais Jésus ne nous attire, n'attire les foules en annonçant quelque chose de cool, sympa. Ce qu'on dénonce quelquefois comme étant l'évangile à l'eau de rose. Jamais Jésus n'annonce un chemin facile. Vous le savez très bien, l'image du chemin, ce n'est pas le chemin facile là, c'est le chemin étroit. Qu'est-ce qu'il dit dans Jean 16 ? Vous aurez des tribulations dans le monde. Venez, suivez-moi, vous aurez des tribulations. Pas parce qu'il veut que la vie soit difficile, mais parce que nous sommes dans le monde. Et parce que ce monde est fortement touché par le mal et le péché depuis des siècles. Mais qu'est-ce qu'il ajoute ? Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Application, quel repos céleste, Jésus, d'être devant toi. J'étais très ému tout à l'heure en chantant ces paroles avec vous. Confiance, non panique, avec le réalisme du combat. Premièrement, réalité du combat. Deuxièmement, réalité des protections divines. Quel repos céleste, Jésus, d'être devant toi, le grand vainqueur, celui qui nous tient, qui nous rattrape, qui nous re-rattrape, qui nous re-re-rattrape, qui nous accueille, qui nous réaccueille, qui nous re-réaccueille. C'est mon histoire. C'est là mon chant. Il est victorieux. Il m'accueille. Troisièmement, être bien équipé. Oui, il y a des armes, il y a des outils à notre disposition, et je vous invite dans cette troisième partie à nous laisser à nouveau éclairer par un texte auquel beaucoup pensent, je pense, devant ce thème du combat spirituel, Éphésiens 6, versets 10 à 18. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force souveraine, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Priez en tout temps, par l'esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. Verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre les choses visibles. Timothée y a fait allusion au début de ce culte. Il y a un combat que je n'ai peut-être pas assez en tête dans ma vie quotidienne. Il y a un combat réel, invisible. Il y a des pouvoirs mauvais qui s'opposent à Dieu. Et il y a le grand vainqueur qui remporte des victoires. Et Éphésiens 6 place le combat de la vie chrétienne dans ce contexte des combats dans le monde invisible. C'est extrêmement solennel. Et si, comme moi, vous souhaitez vivre plus de victoires, je demande à Dieu de nous aider à continuer à méditer les versets qui suivent. 6 remarques très concrètes que nous pouvons repasser dans nos cœurs dans les jours qui viennent pour progresser. Tout d'abord, la vérité. Je sais qu'il y a des images, mais je vais souligner surtout ce qu'elles disent. La vérité, la droiture, l'honnêteté. Quelquefois, ça nous aide de penser au contraire. Quel est le contraire? Dissimulation? Tricherie? Tout ce qu'on fait en cachette? Ça vous arrive? Faire des choses? Oups! Heureusement que personne ne me voit. La vérité est une arme. Et il ne faut pas nous en priver. C'est une arme pour avoir plus de victoire. L'image en fait de la vérité une ceinture qui tient le tout. Sans ceinture, je vous laisse imaginer le reste. La vérité tient le tout. Deuxième arme, la justice. Dans le vocabulaire du Nouveau Testament, la justification, le pardon, ce cadeau de Dieu qui nous déclare juste parce que Jésus-Christ a été condamné à notre place, telle une cuirasse. La compréhension de la justice reçue par Dieu, parce que Jésus-Christ nous a offert d'être déclaré juste, cette compréhension de cet enseignement de l'Évangile est comme une cuirasse. Et il nous faut continuer à bénir Dieu parce qu'il nous déclare juste. Troisième outil, j'ai changé de mot, c'est la même chose, puisque nous sommes devant des images. Troisième outil, la foi, l'Évangile, pardon. La bonne nouvelle, la libération, qui nous remet en route, qui restaure de bonnes motivations, telles de bonnes chaussures de marche. L'Évangile, la bonne nouvelle de la libération. Quatrième outil, la foi. La confiance, l'accueil de la vérité et du salut est probablement autre chose de très important qu'Hébreux 11 nous fait comprendre. Qu'est-ce que la foi? C'est ce qui nous permet de voir ce qui ne se voit pas. Ah, une arme intéressante. Ne pas être pris de court parce qu'on aurait perdu de vue, si je peux dire, ce qui ne se voit pas. C'est très dangereux d'oublier que l'ennemi est là. Très, très, très dangereux. Et la foi n'est pas simplement ce merveilleux regard qui nous permet de croire, d'être dans la confiance. C'est aussi ce qui nous permet de voir ce qui n'est pas du monde visible, du domaine du monde visible, Hébreux 11. Et cette foi est comme un bouclier en tout temps pour être protégé de ce qui nous attaque de toutes parts. Cinquièmement, le salut, bien sûr, vital, ce casque qui protège la tête. Tout commence là, être en route, être sauvé, avoir vécu la repentance, la conversion, la nouvelle naissance, comme nous en avons été les heureux témoins avec un baptême il y a 2 dimanches. 3, ça passe vite. Le casque du salut. Si quelqu'un dans cette salle se demande de quoi je parle depuis 20 minutes, de quoi Timothée a parlé tout à l'heure, et si quelqu'un se demande qu'est-ce que c'est que cette vie merveilleuse, difficile et merveilleuse parce qu'un Dieu nous protège, cette vie commence par la découverte du salut offert par Jésus-Christ à nous tous qui nous repentons de nos fautes et qui, dans la repentance, recevons ce salut et commençons une vie nouvelle. Le casque du salut qui protège toute la tête. Sixième et dernier outil avant celui qui coiffe tous les autres, l'épée de la parole de Dieu, la Bible, la connaissance de Dieu, de sa parole, de la vérité, appelée ici parole de Dieu, que Jésus lui-même a beaucoup manié, souligné, non, comme vous voulez, je ne veux pas vous faire salir votre Bible, mais souligné dans vos têtes. Dans l'Évangile, toutes les fois, il est dit, dans la bouche de Jésus, il est écrit, oui, mais il est écrit, mais il est aussi écrit. Jésus a beaucoup manié le socle qu'est la révélation que Dieu a donnée aux hommes par les prophètes dans sa propre lutte à lui, Jésus-Christ. La connaissance de Dieu, de sa parole et de la vérité est un outil incontournable pour gagner plus de victoires. Je vous ai dit il y a 10 minutes environ que je fais partie de ceux qui souhaitent avoir plus de victoires. Et je confesse que je suis bien bête. Parce que la connaissance de la parole de Dieu est clairement un outil. Et je m'en prive passablement. Donc il ne faut pas que je me plaigne. Je nous invite à redoubler d'efforts pour connaître cette parole de Dieu que Jésus-Christ lui-même a utilisé pour connaître la victoire et que nous avons utilisé les uns les autres pour connaître des victoires. Et je nous invite à être beaucoup plus sérieux dans le maniement de cet outil que Dieu nous donne. Et vous le savez très probablement, je le redis ce matin, après ces 6 outils, ces 6 armes que l'apôtre Paul décrit de façon imagée dans Éphésiens 6, il y a quelque chose qui arrive au-dessus de tout cela, comme par-dessus tout, la prière. Plus d'image là, simplement le conseil final. Priez en tout temps, par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec persévérance. On revient là où on a commencé et on boucle la boucle, comme dit une expression. Jésus a dit « veillez » et prier. On l'a revu avec le texte de l'apôtre Paul tout à l'heure, et on le retrouve ici dans Éphésiens 6. Application en 3 points, si je copie l'humour rhétorique du grand prédicateur Spurgeon. Premièrement, prier. Deuxièmement, prier. Troisièmement, prier. Certains connaissent cette exhortation solennelle de Spurgeon. Conclusion, la réalité du combat. Il nous faut le reconnaître et je nous invite à le reconnaître les uns avec les autres et à nous serrer les coudes. C'est trop dommage qu'on s'épuise quelquefois tout seul dans un combat rude au lieu d'avoir un ou une ou quelques partenaires de combat forts, partenaires dans la prière, dans l'échange, dans la confession devant Dieu. Reconnaissons la réalité du combat. Deuxièmement, souvenons-nous constamment de la réalité des protections divines et nourrissons-nous de ces promesses. J'en ai rappelé quelques-unes ce matin. Troisièmement, faisons nôtre ces outils armes à notre disposition. Relisons Éphésiens 6 et pensons à ces 6 outils qui nous sont donnés. Et réfléchissons à ce que nous en faisons et réfléchissons aux moyens de plus et mieux les manier. Et je sais que nous allons progresser. Voilà la bonne nouvelle. Je sais que si nous manions mieux ces outils, nous allons progresser. Bonne route à chacun. Soyons des compagnons de route, des compagnons de combat. Et en terminant, entendons le réalisme et les promesses de Jésus-Christ dans l'Évangile. Je termine en citant à nouveau Jean 16, 33. Je vous ai parlé ainsi, c'est Jésus-Christ qui parle, pour que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, Mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Cette méditation voulait nous rappeler la réalité du combat. Elle veut autant, vraiment autant, peut-être plus, nous rappeler la beauté de la marche chrétienne. La beauté de cette difficile marche. En acceptant la difficulté de cette belle marche. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Et ce même Jésus-Christ nous promet la joie, la paix, la vie en abondance, la victoire et l'arrivée. Que Dieu nous bénisse et nous réjouisse parce qu'il est le grand vainqueur. Amen.